Merci de nous rejoindre, en tout cas tous ceux qui sont intéressés par ce débat sur l'encadrement des loyers. Bienvenue à toutes et à tous. On a le plaisir, comme plateforme, d'accueillir aujourd'hui deux orateurs. D'une part, Jean-Baptiste Hérault, qui est à ma droite et qui est le représentant de l'association DAL, Droit au logement en France. C'est une association qui s'est créée en 90 pour eux, en 90 pour nous, mais je crois que c'est la même année, à partir d'une occupation de rue qui s'est faite suite à des expulsions à Paris dans le 20e arrondissement, si mes souvenirs sont exacts et mes informations sont correctes.
Bravo.
Et suite à une action qui a eu d'ailleurs un retentissement international, parce qu'on en a parlé ici aussi, et au relogement qui a été obtenu pour les expulsés, il y a eu environ 48 familles qui ont participé à cette action et qui ont été relogées. L'association a continué son action pour défendre le droit au logement, mais je ne vais pas en dire plus parce que Jean-Baptiste nous le présentera. Ce qui est important de savoir, c'est que dans d'autres coins de France, un peu partout en France, des comités DAL se sont créés, qui ont été regroupés dans une fédération en 98. Et aujourd'hui, cette association continue à développer sa lutte pour le droit au logement et pourra nous expliquer un peu ce qui se passe en France et quelles sont les expériences dont nous pourrions tirer un utile profit. Voilà, merci à Jean-Baptiste d'être parmi nous. Il doit nous quitter à 12h45, ce qui nous oblige à devoir aller vite dans notre débat, mais on tâchera d'en tirer un maximum de profit. Notre deuxième invité est un ancien président du RBDH, Nicolas Bernard, qui a déjà fait beaucoup de choses dans sa vie, même s'il n'est pas encore très âgé. Mais il a non seulement été président du RBDH, mais il est aussi professeur de droit à l'Université Saint-Louis, ici à Bruxelles. Il a participé comme expert aux travaux du gouvernement précédent. Il était expert au cabinet de Dunkeridis et il a pu travailler là sur la grille des loyers qui a été concoctée à Bruxelles. Il nous en parlera aussi. Mais on se retrouve aujourd'hui face à la constitution d'un nouveau gouvernement et avec des nouvelles opportunités puisque la réforme de l'État a amené des nouvelles compétences à Bruxelles. Et ce qu'on va surtout demander à Nicolas, c'est de nous exposer un peu quelles sont les perspectives qui s'ouvrent à nous dans ce nouveau contexte et quelles sont les nouvelles revendications que nous pouvons poser ou la manière dont nos revendications peuvent se traduire aujourd'hui dans ce nouveau contexte international. Alors, nos revendications, c'est d'abord Werner qui va nous les rappeler et puis je céderai immédiatement la parole à Jean-Baptiste Hérault. À toi, Werner.
Ok, thank you, Daniel. Merci beaucoup. Très brièvement, vous savez que les gens qui étaient là dès ce matin, on a constitué une plateforme logement et on a travaillé sur un texte avec des revendications et des demandes pour le futur gouvernement. Et on a trois demandes, plus de logements sociaux et alors quand même une demande très importante, l'encadrement des loyers qui doit en fait dégager un peu la place pour accorder une allocation de loyer. Je vais essayer essayer d'expliquer simplement qu'est-ce que nous on demande au futur gouvernement pour l'encadrement des loyers. Mais c'est l'idée d'aller vers des loyers contrôlés. Il faut contrôler les loyers, éviter en fait qu'on demande beaucoup trop pour un logement qui n'est pas décent, un logement qui n'est pas salubre. Et c'est ça en fait la situation pour beaucoup de locataires. Ils payent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop comparé à la qualité et le confort du logement. Et c'est-à-dire que notre demande, je pense qu'on doit être honnête là-dessus, n'est pas à travers l'encadrement des loyers faire diminuer tous les loyers, parce que allez, on est réaliste et je pense pas que si on doit aller négocier et discuter là-dessus, c'est pas ça qui va marcher. On a assez d'expérience avec ici les partis politiques à Bruxelles. Il faut en fait, et c'est ça notre demande, avoir des barèmes obligatoires pour des logements décents. Oui, et c'est-à-dire que on dit qu'est-ce que c'est un logement décent? Ben c'est un logement qui répond à certains critères de base qui offrent une qualité de base, une qualité des sons, etc. Et pour ces logements-là, on va fixer des loyers. Hein. Et là, on peut, on va voir comment ça fonctionne. On peut donner des points à certains éléments, etc. Je ne vais pas expliquer ça, c'est trop compliqué. Mais en fait, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est un logement décent. Oui, on a fait ça dans le cadre du code du logement. On a défini qu'est-ce que c'est un logement insalubre. Maintenant, nous, on veut qu'on définit qu'est-ce que c'est un logement décent. Et alors, pour un logement décent, on va fixer des critères et des valeurs. Hein, et on donne une certaine valeur à un critère. Et c'est ces valeurs-là et ces critères qui disent qu'est-ce que c'est un logement, qu'est-ce que c'est un logement, effectivement, un barème objectif pour un logement décent. Et alors, il faut encore créer des commissions paritaires locatives, des commissions hein, paritaires qui estiment que le loyer demandé correspond bien à ce barème maximum. Et tout ça, hein, c'est peut-être assez simple pour expliquer, mais comment est-ce qu'on va fixer tous ces critères, quelle valeur est-ce qu'on va donner à ça? C'est ça, en fait, l'enjeu et la difficulté de l'exercice. Nicolas va expliquer que le gouvernement précédent a déjà fait une tentative et s'est mis d'accord sur une série de points. Il va expliquer ça, mais on n'est pas convaincu que c'est le meilleur système. Et comme j'ai dit tantôt, il y a des meilleurs. On va rencontrer Madame Onkeling, qui est en train de négocier et discuter avec les autres parties. Et là, on va vraiment demander que ces trois points-là, hein, des définitions d'un logement décent, des valeurs avec des critères et une commission paritaire locative, soient repris dans le nouveau accord du gouvernement. Ça, c'est en quelques mots les revendications de la plateforme. Daniel.
Merci, Werner. Donc, je vais... Parce que nos deux experts sont déjà en train de se concerter pour voir ce qu'on va construire dans le prochain gouvernement. Mais, donc... donc, je vais immédiatement...
Je ne suis pas expert en mètres carrés. Hein.
Ah, non. Ah, voilà. C'est bon. Ouais. Donc, je cède la parole tout de suite à Jean-Baptiste Hérault, que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, Monsieur Hérault, ou Jean-Baptiste, hein, quels sont les dispositifs qui sont mis en place en France? Donc ici, on se trouve dans un système où les loyers sont peu contrôlés, où à la limite, l'évolution des loyers en dehors des périodes qui sont inscrites à l'intérieur d'un bail sont fixées librement à travers les lois du marché. En France, la situation est différente.
Mmh. Ouais, et tout d'abord, je voudrais dire que je n'étais pas venu à Bruxelles depuis longtemps. Et donc, je découvre que vous êtes aussi soumis à ce phénomène inflationniste sur le foncier, l'immobilier, les loyers et également les charges, enfin tout ce qui est lié au logement. Et je voudrais rappeler que c'est un phénomène, d'abord c'est une situation qu'on retrouve aujourd'hui dans l'ensemble des pays européens, donc de manière un petit peu différente suivant les pays, mais on retrouve ce mécanisme d'inflation et d'augmentation des coûts du logement et qui pèsent très lourdement sur les classes populaires et qui permet également d'enrichir, de renforcer le patrimoine et les revenus d'une petite minorité qui profite de la situation. Bon, d'ailleurs, les inégalités sont creusées dans nos sociétés, c'est très net, et les inégalités de patrimoine sont un des éléments référents aujourd'hui du creusement des inégalités. Il y a eu des travaux de la Piketty là-dessus qui a travaillé, Thomas Piketty, un économiste qui a travaillé sur ces questions justement, et qui, pour la France, après, je ne sais pas dans d'autres pays, mais il explique que 60% du patrimoine est détenu par les 10% les plus riches, et que les 60% les moins riches détiennent 10% du patrimoine. C'est juste pour vous dire un peu, bon, et qu'évidemment, les 30% les moins riches, eux, ils détiennent, qu'est-ce qu'ils détiennent? 2, 3, 4% du patrimoine, donc si vous voulez, voilà. Et malheureusement, les inégalités continuent à se creuser et la cherté du logement est un des facteurs de creusement des inégalités. Voilà. Donc, les classes populaires, aujourd'hui, souffrent du logement cher. C'est ce que nous avons constaté en France, évidemment, déjà depuis une dizaine d'années, depuis début 2000, enfin, depuis les années 2000, début des années 2000, quand les pouvoirs publics ont mené une politique agressive pour encourager, justement, le renchérissement, la hausse des loyers, la hausse des charges et la hausse des prix de l'immobilier et du foncier. Alors, je vais pas détailler les mécanismes parce que bon, mais en tout cas, il y a eu, en tout cas, nous en France, on a vécu des politiques publiques tournées vers justement la spéculation, le renforcement de la spéculation foncière immobilière et la flambée des loyers. Voilà. Alors, à partir de là, il y a un collectif, c'est une plateforme qui s'est constituée, un peu comme vous, hein. On a constitué une plateforme et je trouve qu'on est un petit peu sur les mêmes valeurs, quoi, enfin les mêmes objectifs. On l'a appelé la plateforme contre le logement cher, la plateforme logement des mouvements sociaux. Mouvements sociaux parce que ça regroupe des associations de mal logés comme le DAL, association de lutte des mal logés et des sans logis, c'est-à-dire qui regroupe les mal logés qui vont revendiquer le droit au logement, l'application des lois et des droits qui existent et qui ont été votés d'ailleurs et qui sont bafoués, piétinés en permanence dans notre pays. Donc je ne vais pas rentrer sur ce volet-là, mais il faut savoir que les lois ne suffisent pas. Hein, faut quand même le savoir. Donc le deuxième élément, c'est que on réunit également des associations de locataires, parce qu'il y a un certain nombre d'associations de locataires qui sont notamment pour la défense des locataires en logement social, en HLM, et puis des syndicats de salariés qui estiment aujourd'hui effectivement que le logement pèse de plus en plus lourdement sur les revenus des salariés et que bon, c'est une ponction injuste et injustifiée et qui évidemment réduit l'accès au reste, c'est-à-dire bon, à la santé, à l'éducation, à l'alimentation, aux soins, enfin bon, aux loisirs, etc. Donc et fragilise les salariés, les classes populaires. Donc ce que nous d'ailleurs on a un peu appelé les revenus de la rente locative et immobilière, hein, la rente, les rentiers, ceux qui gagnent de l'argent en dormant, si vous voulez, bon, en faisant pas grand chose. Voilà. Ah oui, c'est
une belle formule.
Donc voilà, on a un peu, nous, il y a un problème de classe, il y a une situation de classe sociale, il y a une surexploitation aujourd'hui des classes populaires par les ménages les plus riches, par les profiteurs, par les rentiers, hein. Bon, une fois que les choses sont dites de façon un peu simple, on les comprend. Alors, à partir de là, la plateforme a exigé, évidemment, l'encadrement des loyers, la baisse des loyers immédiate de 20% pour dire faut donner un peu du pouvoir d'achat aux classes populaires et un peu d'oxygène. Et ensuite, encadrement des loyers et des charges, taxation de la spéculation immobilière et foncière, c'est-à-dire le terrain. Et arrêt des expulsions sans relogement, des mesures d'urgence, hein. Des expulsions, la réquisition, etc. Donc c'est pas ce volet-là qu'on traite aujourd'hui. Mais sur la question des loyers, en tout cas, voilà les terrains sur lesquels on s'est bagarré. En disant, il faut absolument réduire ces profits qui sont tirés sur le dos des classes populaires. D'ailleurs, on a constaté aussi que les classes populaires sont de moins en moins propriétaires de leur logement et de plus en plus locataires. Donc de plus en plus exploités par ceux qui... Mais il y a aussi un phénomène d'exploitation, comme on l'a vu en Espagne, sur l'accession à la propriété, où finalement les banques vont tirer profit des accédants à la propriété, lesquels, une fois qu'ils ont payé leur maison au bout de 40 ans d'efforts, vont accrocher la maison au clou pour payer la maison de retraite médicalisée. C'est ça qui se passe. Donc c'est aussi une forme, si vous voulez, d'exploitation aujourd'hui qui se met en place à travers l'accession à la propriété et la volonté d'avoir un patrimoine à soi pour sécuriser l'avenir et puis se dire « je vais pour mes enfants, etc., je vais acheter un bien immobilier ». Mais en réalité, comme on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis, les classes populaires, en Espagne, quand elles accèdent à la propriété, elles se font gruger. Elles ont toutes les chances, à un moment donné, de retomber. Puis si jamais elles tiennent leur logement, comme je vous l'ai dit, elles le perdent parce qu'elles vont le refiler aux banques en fin de vie pour payer la maison de retraite médicalisée. C'est ça le processus aujourd'hui qui est en cours. Voilà. Maintenant, très concrètement, puisque le débat, c'est l'encadrement des loyers, il faut poser ce contexte-là. Quand les socialistes avec les écologistes ont gagné les élections législatives... Un gouvernement a été créé en 2012, donc avec une ministre écologiste, Cécile Duflot, donc qui a été relativement sensible d'ailleurs sur cette question du logement cher et cette question de la crise du logement. Donc il y a eu deux lois qui ont été adoptées successivement, une qui prévoit dans la mesure phare, c'est la réalisation de 25% de logements sociaux dans chaque commune, dans les zones urbaines. Les villes, les agglomérations, je ne sais plus, enfin, en gros, Bruxelles serait concernée, si vous voulez. Bon. Mais dans chaque municipalité, il faut qu'il y ait 25% de logements sociaux d'ici 2025. On peut relativiser, parce que tout, enfin, ce qu'ils appellent du logement social, on va dire, c'est du logement encadré. Bon, il y a du logement très social pour les 30% les moins chers, les moins riches, c'est-à-dire les classes populaires. Bon, après, il y a du logement social qui est ouvert aux 60% les moins riches. Et puis, on a du logement PLS pour les classes moyennes un peu supérieures, si vous voulez. Bon. Donc, ça, on pourrait dire que c'est du logement encadré, financé avec, d'une part, l'épargne populaire, notre épargne, dont une partie, d'ailleurs, a été refilée aux banques hein, pour spéculer sur les marchés internationaux, c'est le livret A. Et d'autre part, des aides à la pierre, c'est des aides, des subventions ou des terrains qui sont fournis. Alors donc, ça, c'est la première partie de la loi. Sur la deuxième partie, la deuxième loi, elle a donné lieu donc également à une mobilisation de la plateforme logement des mouvements sociaux unitaires, bon, pour essayer de peser au maximum contre les lobbies des bailleurs et des rentiers, également ceux qui défendent leurs intérêts, c'est-à-dire les milieux d'immobilier, en règle générale, les agences immobilières, tous ceux qui gagnent de l'argent, au fond, sur le logement cher. Donc, les résultats sont mitigés, si vous voulez. Hein. Bon, d'abord, effectivement, le principe de l'encadrement des loyers dans les zones tendues est acquis. Le principe a été acquis. Les milieux politiques reconnaissent, à droite peut-être moins, parce qu'ils sont les alliés habituels aussi politiquement. Les conservateurs soutiennent la rente. Mais du côté des sociaux-démocrates, si vous voulez, des écologistes, bon, ce principe de l'encadrement apparaît de plus en plus comme une nécessité, bien que le gouvernement actuel, on ne sait pas trop où est-ce que ça va aller. Alors, après, il y a eu plusieurs mécanismes. Le premier, c'est que dès l'été 2012, a été activée une mesure qui interdit aux bailleurs de louer à un nouveau locataire plus cher qu'au locataire précédent. Donc limiter, si vous voulez, la hausse à la relocation, qui est le facteur le plus fréquent, hein, qui concourt le plus activement au renchérissement des loyers. Donc ce mécanisme-là, mais il n'a pas été vraiment respecté par les bailleurs parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc les bailleurs, au fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Moi, je m'en fous, qui c'est qui va m'emmerder ?» Bon, donc le résultat, c'est que pour l'instant, on pense que cette mesure, elle n'est pas respectée. Mais il y a eu des mesures de resserrement, de contrôle dans la loi du flot. Bon, et là, tout ça, c'est du rapport de force à la virgule près. Hein, je peux vous dire, ça discute. Bon, et donc on a finalement obtenu que soit mis en place d'une part un bail unique, le système du bail unique, et dans lequel le bailleur, donc ça, je sais que vous le demandez, j'ai entendu tout à l'heure, et dans lequel le bailleur, lui, doit préciser le montant du loyer antérieur. On aurait aimé quelque chose de plus vigoureux, si vous voulez, qui aille, par exemple, obliger les bailleurs à déclarer leur revenu locatif logement par logement, parce qu'aujourd'hui, ils font un forfait général, hein, et à l'administration fiscale, avec la surface du logement. Parce que, attention, aujourd'hui, alors à partir de l'encadrement, prévoit également un niveau de loyer au mètre carré. Donc, ce qui veut dire que la question de la surface va être une question centrale. Très importante, la question de la surface. Moi, par ailleurs, j'enseigne dans une école d'architecture et j'envoie donc régulièrement des étudiants architectes pour aller faire des états des lieux dans les logements des mal logés, qui sont défendus par le DAL notamment. Et on voit bien que dans beaucoup de cas, la surface est majorée. La surface, elle est majorée de 5, 10, 15%, voire même des fois plus. Bon, mais comme ça n'a pas d'importance, si vous voulez, les locataires ne font pas très attention à cet aspect-là. Mais là, aujourd'hui, à partir du moment où la loi va être mise en œuvre, notamment à Paris en septembre ou en octobre, cette question de la surface va avoir un rôle très important. Donc, à cette question du bail unique, donc Nous, on aurait aimé, en tout cas, mais on n'a pas obtenu, justement, que, en gros, ce soit très clair, tel logement, il fait telle surface, et voilà les éléments de confort qu'il y a dans ce logement, tout ça, c'est déclaré dans une fiche, c'est nomenclaturé, quoi, enfin, où c'est classé, et bon, on sait quelle est la valeur d'un logement, voilà, et quand il fait des travaux, bah, il fait sa déclaration de travaux, tout le monde est d'accord, le locataire, le machin, le truc, on sait combien c'est loué, parce qu'il paye des impôts, voilà, et donc, les choses sont claires. Mais évidemment, les bailleurs n'ont pas voulu, et l'administration, le gouvernement non plus. Bon, on a proposé que ce soit géré par l'administration locale, par des collectivités locales. Par exemple, ici, ça serait la région de Bruxelles. Mais ça n'a pas été non plus retenu, pour des raisons qu'on ne nous a pas expliquées. Voilà. Alors maintenant, donc là, vous voyez, il y a une faiblesse. Aujourd'hui, il y a quand même une faiblesse, hein. Comment les loyers vont être fixés? Je suis dans la soupe technique, hein, c'est ça que vous voulez? C'est ça qu'il faut, hein?
Ouais, allez-y, allez-y.
Bon. Non, mais vous me dites, hein, parce que bon. Alors, comment les loyers vont être fixés? Ils vont être fixés en fonction du loyer médian. Alors, le loyer médian, c'est ceux qui payent plus et ceux qui payent moins. C'est pas une moyenne des loyers. On mélange et puis on sort un chiffre. C'est. Il y en a la moitié qui paye au-dessus et la moitié qui paye en dessous. Bon, c'est réputé plus stable. Moi, je suis pas statisticien, donc je sais pas, je saurais pas vous dire. Mais c'est réputé plus stable et ça peut être un peu en dessous du loyer moyen, paraît-il. Bon. Et donc, ça sera défini par secteur. Et selon une décision donc du Conseil constitutionnel, qui a fait des remarques là sur l'encadrement. Le loyer médian par secteur devra également prendre en compte des éléments plus précis qu'un secteur vague, genre un quartier ou un arrondissement. Bon, donc on verra ce qu'il en sort. On suppose que derrière, le Conseil constitutionnel veut dire qu'il y a des immeubles, par exemple, de belle qualité, des beaux immeubles en pierre de taille. Bon, avec des parquets, des balcons et tout, bon, des immeubles modernes avec tout confort, et des immeubles avec des logements pourris ou des logements qui sont ensoleillés, d'autres qui donnent sur des petites cours étriquées, sur lesquelles il n'y a pas de lumière naturelle, je ne sais pas. Donc, on suppose qu'après, évidemment, il y a des différences entre le type de logement. Bon. Ensuite, il y a un deuxième. Donc là, on ne sait pas trop hein, comment le gouvernement va s'en sortir sur cette affaire-là. C'est les hauts préfets de fixer. Et on espérait honnêtement, parce que la loi prévoit que le préfet dans chaque département donc fixe le loyer médian. Fixe le loyer médian. Un et deux, fixe un loyer plafond, un loyer maximum au mètre carré, qui ne peut excéder 20% du loyer médian. Et un loyer plancher qui ne peut être inférieur à moins 30% du loyer médian. Alors, bon, rapidement, hein, parce que nous, on a les interrogations.
Oui, parce qu'il faudrait pouvoir céder la parole à notre autre expert. Donc, essayez de.
Bon, alors, je termine.
Concentrer votre.
On a un dernier point, un autre critère qui est un peu difficile, qui est qu'il y a des biens qui pourront être. Dont les loyers pourront excéder ce loyer médian ou ce loyer fixé par le préfet. À titre exceptionnel, mais nous on pense que les bailleurs vont imposer justement ce dépassement aux locataires, surtout dans les zones tendues où il y a une offre insuffisante. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. On redoute d'une part une hausse des bas loyers, d'autre part on redoute qu'il y a un encadrement des loyers à la hausse plutôt qu'un encadrement des loyers à la baisse. Donc il faut être quand même vigilant là-dessus. Nous, on reste mobilisés. Je pense qu'à la rentrée, on aura des initiatives en commun pour justement faire en sorte que des mesures soient prises pour baisser les loyers, non pas pour favoriser, une fois de plus, la rente locative et les profits maximum au grand bénéfice d'une petite minorité. Voilà, ce que je pourrais rajouter, c'est que également ont été encadrés la possibilité de donner congé à son locataire à l'issue du contrat. Donc ça a une certaine importance parce que c'est lié à la stabilité du logement. Sur le congé vente, c'est-à-dire quand le propriétaire vend, Bon, c'est un peu plus encadré, mais il peut encore le faire, bien sûr. Nous, on était pour l'interdiction du congé-vente, qui est un facteur de hausse des prix de l'immobilier. Et également le congé-reprise, bon, qui était utilisé un peu n'importe comment. Bon, donc, il y a un meilleur encadrement de ce côté-là. Sur la qualité du logement, la décence du logement, il y a une législation qui est un peu renforcée, qui va sortir un peu renforcée. Également, sur le logement insalubre, ce serait dangereux pour la santé ou la vie des habitants. Donc, là aussi, une législation qui est un peu plus protectrice. Voilà, donc on a obtenu quelques avancées sur les cas les plus difficiles, mais au fond, sur les enjeux généraux de la rente, et qui ponctionne la rente sur le dos de qui, et donc où est-ce qu'il faudrait mettre le niveau. Un dernier mot sur la garantie, parce que vous demandez une garantie sur les impayés de loyer. Nous, on est très prudents là-dessus. Nous, en tout cas pour le DAL, et la plateforme logement donc n'a pas repris cette revendication, on est défavorable à l'institution, à la généralisation d'une garantie sur les loyers. Pourquoi ? Parce que la garantie, ça garantit des loyers chers. Ça ne vient pas garantir la sécurité pour les locataires. Ça garantit pour le bailleur. C'est une garantie pour le bailleur, la garantie sur les loyers. Ce n'est pas une garantie pour les locataires. Le locataire, ça lui permet peut-être d'arriver plus facilement dans un logement, mais ça lui permet aussi il se retrouve à payer avec des taux d'effort de 50, 60%, etc. Donc ça, pour nous, une garantie sur les loyers chers, c'est pas une bonne solution. On pourrait dire une garantie sur des loyers encadrés, pas chers, donc en logement social, etc. Mais une garantie sur le marché privé, nous, on est plutôt défavorable à cette disposition parce que c'est une mesure, ce qu'on appelle inflationniste, donc qui a pour effet de rassurer les bailleurs, donc qui vont louer encore plus cher. Donc vous voyez le raisonnement général. Il faut baisser la rente locative pour redonner du pouvoir d'achat aux classes populaires. Merci. Un toit, c'est un droit.
Merci Jean-Baptiste Hérault.
Oui.
Merci Jean-Baptiste Hérault. On voit hein, donc des mesures d'encadrement qui existent en France, mais aussi avec des points d'interrogation. Et comme le souligne notre invité, c'est clair qu'une loi ne suffit pas si derrière il n'y a pas toute la mobilisation pour les faire appliquer et pour avancer dans les revendications. Ben, il y a des dérives possibles que Jean-Baptiste Hérault nous a soulignées. Un encadrement ne signifie pas nécessairement une limitation ou une baisse des loyers et une accessibilité des loyers. Nicolas Bernard, qui nous a rejoint depuis Madrid, où mes informateurs me disaient qu'aux petites heures, il était encore occupé hier soir. Et ce matin, Médo qui nous a rejoint ce matin de Madrid, Nicolas Bernard, donc le gouvernement précédent a fait des avancées en termes d'encadrement des loyers. L'accord du gouvernement prévoyait une grille des loyers, une série de mesures. Donc qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été effectivement réalisé lors du gouvernement précédent? Et deuxième question, maintenant on se retrouve face à un nouveau gouvernement et comme je le disais tout à l'heure, avec de nouvelles opportunités, quelles sont les nouvelles plage d'action qui s'ouvre à nous et dans quelle mesure les revendications de la plateforme pourraient être rencontrées dans ce nouveau contexte. Je lui cède la parole tout de suite. Encore merci de nous avoir rejoint, Nicolas.
Avec plaisir. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci, Daniel, Monsieur le Président. Alors, je répondrai aux deux questions. Juste deux, trois éléments de contexte et ça ne me fera pas dépasser mon temps de parole promis. Premier élément de contexte, c'est que, sans donner des chiffres, ce sont les loyers des logements les plus dégradés qui augmentent le plus vite. Donc, les plus défavorisés sont les premières victimes de la crise du logement. Deuxième élément de contexte, c'est qu'en Belgique, les loyers ne sont pas taxés. On taxe la maison sur base du revenu cadastral, mais pas des loyers. Alors, fatalement, il n'y a pas de frein pour le bailleur de demander des loyers élevés. C'est une autre de nos tares dans notre système fiscal. Troisième élément de contexte, quand un locataire doit choisir entre différentes factures à régler, il n'a pas les moyens pour régler toutes ses factures. Généralement, il choisit la facture de loyer en premier, par crainte de l'expulsion, ce qui va évidemment provoquer des impasses sur d'autres postes du budget, comme la santé. Et donc, on voit vraiment que c'est un cercle vicieux. Alors, ceci étant, il existe quand même deux dispositifs en Belgique qui permettent de diminuer le loyer, ou en tout cas de l'encadrer un tout petit peu. Et ces deux dispositifs ne sont pas connus, et donc je voudrais mettre l'accent dessus. Le premier dispositif, c'est la réduction de précompte immobilier pour enfants à charge. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire ici, puisque le précompte immobilier est dû par le propriétaire, par le bailleur, c'est d'ailleurs inscrit dans la loi sur le bail, ça ne peut pas être mis à charge du locataire. Quel est le rapport ? Eh bien, parce que le locataire, s'il a deux enfants à charge ou plus, peut, pour le bailleur, au nom du bailleur, demander à l'administration fiscale fédérale d'avoir cette remise de précompte immobilier, laquelle remise, une fois obtenue par le bailleur, devra être répercutée dans le loyer. Donc le loyer va diminuer du montant de la réduction de précompte immobilier. Et à Bruxelles, c'est 10% de réduction de précompte par enfant à charge à partir du deuxième. Je suis sûr, on fait un petit sondage ici, 95% des gens ne connaissent pas cette mesure. Il faut réclamer ses droits. Et pour une fois, c'est assez pratique. Il y a un formulaire sur le site du SPF Finance. Ce n'est pas trop kafkaïen. Deuxième mesure qui existe, et je vais rejoindre ce que Jean-Baptiste Hérault disait tantôt, entre deux contrats de bail de courte durée, c'est-à-dire 3 ans ou moins, entre deux contrats de bail de courte durée conclus avec des locataires différents, si c'est le bailleur qui met fin au contrat de bail, le loyer du nouveau bail ne peut pas excéder le loyer du bail précédent. C'est déjà depuis longtemps dans la loi, mais ce n'est pas appliqué. Et là, on touche du doigt le problème que Jean-Baptiste avait soulevé. C'est qu'il n'est pas possible pour le locataire numéro 2 de connaître le loyer du bail numéro 1. Et donc, il faut plaider pour une espèce d'instauration de cadastre centralisé de loyer, de bail unique, de formulaire, de centralisation. Voilà. Donc ça, ce sont des revendications très fortes. Alors, qu'a fait le gouvernement actuel en matière d'encadrement des loyers ? Ben, l'accord de gouvernement s'ouvrait par cette déclaration. Il faut donner un avantage fiscal à ceux qui demandent un loyer conforme à une grille de référence. C'était ça la première mesure inscrite dans l'accord de gouvernement. Et donc le gouvernement s'y est attelé et il a élaboré une grille de loyer. Et j'ai vu tantôt Ilham qui distribuait cette grille. Je crois qu'elle a fait quelques exemplaires. Et c'est une grille qui reflète non pas le loyer idéal. Jean-Baptiste disait, ben oui, il faut commencer par descendre tout le loyer de 20%. Ça, le gouvernement n'a pas suivi cette voie. Faut savoir qu'à Bruxelles, le gouvernement, il est extrêmement composite. Hein. Ça va du VLD, donc la droite flamande, au PS, la gauche francophone. Donc, fatalement, il y a des arbitrages, des compromis à n'en plus finir. Mais donc, ce n'est pas du tout un gouvernement monochrome comme en France. Donc, voilà. C'est pour ça que ça ne va pas très vite tout le temps. Mais donc, le gouvernement a rédigé, oui, malgré, le gouvernement a rédigé, a élaboré cette grille de loyer en essayant de refléter les valeurs moyennes du marché, pas médianes, moyennes. Et tout ça a été fait de manière très savante et très scientifique par une équipe d'universitaires. L'équipe a d'abord identifié quels étaient les critères qui pèsent le plus dans le loyer. Est-ce que c'est la superficie ? Est-ce que c'est la présence d'un garage, le nombre de salles de bain, etc. Donc, on a identifié une quinzaine de critères. Et puis, à chacun de ces critères, on a mis une valeur pécuniaire. Pour le garage, c'est combien ? Hop. C'est plus 46 euros. Voilà. Donc, c'est un peu un système, à la hollandaise. Hein. Ça se rapproche un peu du système hollandais, plus que du système français, où donc on prend sa calculette et on additionne le nombre de garages, de mètres carrés et tout, et on a la valeur moyenne. Alors évidemment, c'est une grille qui peut prêter le flanc à la critique. On peut dire qu'il faut rajouter des critères, en enlever d'autres, que ça fait la part belle à des logements de standing. Mais ce sont des critères qui n'ont pas été choisis de manière arbitraire. Ce sont ceux-là qui pèsent le plus statistiquement dans la fixation du loyer. Mais c'est de toute façon un premier geste. Ça n'avait jamais été fait. Est-ce que cette grille a fait l'objet d'une mise en application pour encadrer les loyers ? Ben non. Ça, il faut le dire d'emblée, c'était l'échec. Pourquoi ? Ben parce que d'abord, l'accord de gouvernement disait qu'il faut un avantage fiscal. La grille doit servir un avantage fiscal. Or, ça coûte très cher, un avantage fiscal. C'est toujours l'arme du pauvre, hein, si je peux dire l'avantage fiscal, l'arme du pauvre en imagination. C'est-à-dire, il suffit de faire une petite réduction fiscale, un bonus là. J'allais dire, ça ne mange pas de pain. Si, ça coûte beaucoup, mais c'est un coût qui n'est pas visible, puisque c'est un manque à gagner. Et donc là, on a chiffré le coût, et il était assez élevé. Et donc, le gouvernement a dit, non, les réductions de précompte immobilier, c'est trop élevé, c'est trop cher. Certains ont dit, c'est pas grave, alors on va imposer un surcroît de précompte immobilier aux propriétaires qui demandent plus que la grille de référence. Et là, d'autres parties ont dit « Oh, pas question, là ça devient coercitif, ça devient répressif, c'était pas ce qui était prévu. » Discussion dans tous les sens et résultat des courses, on n'a pas abouti à donner une utilisation à cette grille de loyer. Mais la grille, elle, a été officiellement endossée, adoptée par le gouvernement. Alors, le futur gouvernement, puisque Daniel, opportunément, me lançait sur cette voie-là, ben, le futur gouvernement, il faudra lui dire deux choses. Un, il existe une grille à votre disposition. Cette grille, elle est remise à jour chaque année. Utilisez-la. C'est la seule grille qui existe. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais il y a les AIS. La grille AIS est très, très, très sommaire. Elle ne répond qu'à un critère, c'est le nombre de chambres. Quel que soit le loyer, c'est la même valeur. Tandis que la grille du gouvernement, elle est modulée notamment en fonction des quartiers. Donc, première chose à dire, capitaliser sur le travail qui était fait en termes de grille. Deuxième chose à dire, c'est ben, arrêtons de jouer avec les incitants fiscaux. Maintenant, et on est le 14 dans 16 jours très exactement, la région bruxelloise et les deux autres régions vont hériter d'une compétence tout à fait importante. Une petite révolution est en marche, c'est le bail d'habitation. À partir du 1er juillet 0h01, la région bruxelloise pourra faire sa propre ordonnance, sa propre loi en matière de bail et pourra, de manière décrétale, hein, imposer que le loyer ne peut pas dépasser, c'est interdit autrement, le loyer ne peut pas dépasser telle valeur, par exemple la grille de loyer ou la grille de loyer plus 10% ou que sais-je. Donc ça, c'est dans les mains du futur gouvernement. Alors, à ceux qui rétorqueraient que l'outil gris est un peu imparfait pour lui donner une valeur répressive si forte, eh bien, là je rebondis sur ce que mon voisin de droite disait, Werner, de manière tout à fait intelligente aussi, c'est l'idée de la commission paritaire locative, et là on s'est fort inspiré de ce qui se passe en France et en Hollande à cet égard-là, c'est-à-dire des commissions qui réunissent bailleurs et locataires et qui peuvent être saisies par un locataire à propos de la justesse du loyer par rapport à la grille. Donc bailleurs et locataires vont examiner ensemble le caractère correct ou pas du loyer qui est demandé par rapport à la grille. Et là, le propriétaire, par exemple, pourra argumenter, pourra dire « Oui, mais enfin, je viens de rénover, donc peut-être que ça peut aller un peu plus haut, j'ai fait les investissements énergétiques qui se répercutent favorablement sur le loyer. » Et donc, là, il y aura un lieu de débat. Et donc, c'est faux de dire que la grille de loyer va devenir un outil bureaucratique, technocratique, qui va imposer sa loi. Non, il faut greffer à cet outil cette procédure, entre guillemets, d'appel. Et alors, pour terminer, même si le gouvernement ne peut pas, le futur gouvernement ne peut pas entendre cette voix-là, parce qu'il faudra voir qui va composer ce gouvernement, hein, mais on peut lui dire qu'au moins, il y a moyen de travailler sur le loyer de manière indirecte. Comment ? Ben, tout simplement en jouant sur la durée du bail. Étant entendu qu'en cours de bail, on n'augmente pas le loyer, sauf s'il y a index. Si on ne veut pas réguler le loyer, eh bien alors au minimum qu'on instaure des durées incompressibles de bail ou alors qu'on limite les possibilités de résiliation anticipée du bail, qu'on dise, ben voilà, on ne peut plus résilier pour telle ou telle raison, ou bien c'est le bail de 9 ans d'office ou que sais-je, mais donc il faut alors travailler de manière indirecte. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci, merci Nicolas. Bon, il nous reste encore un quart d'heure pour vous permettre de poser vos questions à nos invités. Et ben, vous avez la parole. Je pense qu'il y a un micro qui peut circuler.
Bonjour. Au fait, moi, je voudrais juste vous poser une question par rapport à la grille. Là, je ne sais pas si c'est fonctionnel ou non. Je vois que le constant, c'est la base que chacun devrait normalement payer, les 239 €. Et chaque fois qu'il y a un surplus, on rajoute le chiffre qui est. Est-ce que ça, c'est vraiment concret, c'est concrétisé ou est-ce qu'on peut s'adresser pour avoir cette grille-là ?
Alors,
oui,
justement,
ouais.
c'est ce que je déplorais, c'est qu'aucun usage n'a été fait de cette grille. Donc le gouvernement l'a juste adopté et puis s'est disputé sur l'utilisation à lui donner. Donc cette grille, elle n'est pas opérationnelle, mais son existence, elle, est officielle. Mais il n'y a pas d'usage. Donc ça sert juste avoir une information sur le loyer moyen. Et ça peut quand même aider. Si vous sentez, quand vous allez visiter un logement, que le loyer demandé est tout à fait excessif, vous pouvez avoir recours à la grille et faire pression, une pression tout à fait informelle, hein, faire pression sur le bailleur en disant « mais enfin, vous demandez beaucoup trop, par rapport aux moyennes du marché, vous êtes largement au-dessus ». C'est plus ou moins la seule utilisation qu'on peut faire à l'heure actuelle, mais c'est une utilisation tout à fait non officielle, malheureusement. J'entends pas, je suis désolé.
Apparemment, ça ne servira à rien, parce que si vous, entre vous et le bailleur, donc du fait que vous êtes dans le besoin d'avoir cet appartement, vous êtes obligé d'accepter. Donc le système reste identique.
Un premier pas est fait, il y en a encore 9 autres à faire, mais c'est clair qu'on n'est pas au bout. Mais
ça ne suffit pas.
Voilà. Il y a un premier pas, mais il est très limité. Ça,
non, mais vous avez raison. Sans mesure complémentaire, jusque-là, l'utilisation de la grille est extrêmement limitée. Je vois Nicolas qu'on n'en disconviendra pas. Mais elle a le mérite d'exister. Et donc, ce qu'on peut espérer, et c'est ce que nous, en plateforme, nous revendiquons, c'est qu'on avance maintenant un pas plus loin et que le futur gouvernement instaure des mesures beaucoup plus coercitives qui permettent de rendre effectif l'encadrement que cette grille permet d'une certaine manière. Cette grille ou une grille améliorée, on a encore des débats à avoir là-dessus.
Ok, merci.
Voilà. Monsieur, et puis... Oui, après
le
Louis.
Le bail à laisser, ça c'est la mode. 1 an, si ça va, on continue, on fait un bail de 9 ans. Si ça ne va pas, alors... le locataire peut partir, payer tous les frais, déménagement, compteur, etc. Donc ça, c'est quelque chose, au point de vue juridique, qui ne va pas. Un bail à laisser, ça ne tient pas debout. Et pourtant, ça se pratique tout le temps, même les sociaux. La régie foncière de Bruxelles, c'est 18 mois. Si ça va, on continue. Qu'est-ce qui va? Qui va décider ça? Il y a un problème.
Ça, c'est la problématique de la durée du bail que Nicolas évoquait tout à l'heure. Non, Nicolas,
je ne sais pas si tu veux... Tout à fait, vous avez raison. Et en Flandre, dans le logement social,
mais
ils avaient
ici,
prévu...
Ici, je parle du bail à l'essai. Hein, on ne dit pas un an, on dit si ça va, on continue. Ouais.
Ouais. Ben, ce principe a été officiellement condamné par la Cour constitutionnelle parce qu'en Flandre, ils avaient mis ça dans le bail social en disant ben, après 2 ans, suivant notre bon vouloir, on prolonge le bail ou on y met fin. Et la Cour constitutionnelle a dit non. Vu le droit au logement et l'article 23 de la Constitution, on ne peut pas, comme ça, pour le fait du prince, mettre fin au bail social.
Oui. La parole est à Louis Van Gaït, que je salue, dont je salue la présence ici. Bonjour Louis.
Bonjour, merci beaucoup. Je voulais demander, il y a donc une plateforme qui a organisé la journée d'aujourd'hui, c'est prometteur. Est-ce que, dans tout ce que vous avez mis en évidence... et qui apparaît certainement en partie fort technique pour les gens qui écoutent. Est-ce que vous avez l'intention de faire ensemble des visites d'interpellation aux partis au pluriel qui négocient la formation du gouvernement en leur demandant de prendre des engagements? Nous n'entrerons pas dans un gouvernement qui ne fait pas ceci ou ça. Ça, si vous le faites ensemble, en faisant appel à l'appui, au soutien des gens, non seulement qui sont ici maintenant, mais qui seront nombreux aussi à la fête cet après-midi, ça a des chances d'obtenir un résultat. Mais il faut le faire à temps, pendant la formation du gouvernement, avant qu'on dise « oui, on a promis de faire ça ». Mais on a dû négocier et on a dû abandonner ceci et ça, ou bien on va le faire dans 3 ans au lieu de le faire dans les 6 mois qui suivent la formation du gouvernement. Mm-hmm. C'est une question essentielle, faute de quoi tout ce qu'on fait de bien risque de rester comme la fameuse grille qui est théoriquement là, mais qui sert à peu de choses. Je ne dis pas à rien, mais à peu de choses.
Ok, merci. Merci. Merci pour la question. Ben Louis, on a envoyé des courriers en fait à tous les partis démocratiques avec une série de questions. Hein. Comme vous vous suggérez, est-ce que vous êtes prêt à renoncer à rentrer dans un gouvernement qui n'est pas d'accord, etc. Et on a reçu des réponses, hein, entre autres du PS, hein, qui a mis noir sur blanc. Peut-être ils n'ont pas bien compris la question, mais soit, ils ont mis noir sur blanc. OK, on est d'accord de ne pas rentrer dans un gouvernement sans encadrement des loyers. Ça, c'est quand même déjà une chose très importante. Et en plus, on a les syndicats qui font quand même partie de la plateforme. On a déjà rencontré Mme Onklinks, qui est en train de former maintenant un nouveau gouvernement bruxellois. Et là, ils ont déjà touché la question de l'encadrement. Et elle est d'accord sur le principe de recevoir une délégation de la plateforme. Je pense que c'est pas seulement ici la fête sur cette place, mais on est quand même à côté de ça, parallèlement en train de essayer de peser sur la négociation du gouvernement. Et comme vous dites, c'est maintenant qu'on doit mettre ces choses-là en œuvre. On avance.
On avance, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Moi, je voulais poser une question à Jean-Baptiste, à avoir son regard sur le choix français de se baser sur le loyer médian. On entend la nuance entre médian ou moyen, mais dans les deux cas, c'est la référence est les prix pratiqués sur le marché, sans considération pour des investissements qui ont été réalisés ou pas par les propriétaires, que ce soit en termes de rénovation ou de construction. Il y a d'autres pays, je pense en Allemagne, où la régulation des loyers est plutôt basée sur le coût de construction d'un logement, sur les coûts de rénovation d'un logement. Et donc, est-ce que cette référence-là ne serait pas plus judicieuse pour essayer d'éviter, en quelque sorte, des rentes excessives et donc d'arriver à des règles qui, en fait, finissent par dire, bon, avoir 3 ou 4% de rendement sur votre logement, ben c'est bien normal, mais des rendements à deux chiffres, ça ne va pas. Et donc, en quelque sorte, j'ai quelques doutes sur le choix de la référence en termes de loyer médian ou moyen pour précisément limiter les dividendes, les intérêts que les bailleurs peuvent se faire sur leur logement. Vous n'avez pas contesté cette référence?
C'est-à-dire que, en réalité, la bataille s'est focalisée. Enfin, à partir du moment, la bagarre s'est focalisée en réalité sur au-dessus du loyer médian, au-dessus du loyer médian, au-dessus, en dessous, etc. Et jusqu'où. Et voilà, c'est à partir du moment où le gouvernement a choisi cette référence, nous, on l'a un peu contesté. On a dit il faudrait. On avait une loi qui encadrait les loyers en France après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1986. Les loyers anciens, des logements anciens, et donc étant fixés en fonction du confort, de la surface, de l'ensoleillement, de la qualité du bâti, du quartier, etc. Bon, donc là, on avait effectivement un calcul qui était assez objectif, en réalité. Bon, là, sur leur histoire de loyer médian, ils sont partis du principe que, en gros, tous les loyers qui répondent à des normes de décence, qui sont des normes minimales. Hein. Bon, à partir de là, dès lors qu'ils sont situés dans tel quartier, on va faire une moyenne. Dans ce quartier, on fait une moyenne et puis on s'appuie sur les niveaux de loyer du marché. Voilà. Donc, moi, je trouve que cette grille-là que j'ai sous les yeux, c'est vrai qu'elle est intéressante parce qu'elle mixe de nombreux facteurs, notamment ceux que tu soulèves là. Donc, mais j'ai bien peur qu'on soit passé à côté en tout cas en France, ni les bailleurs ni le gouvernement n'ont souhaité travailler sur une grille de cette nature, et les associations de locataires ont pas. Nous, on s'est unifié sur l'idée d'une baisse des loyers et d'un encadrement des loyers. On s'est arrêté là, j'avoue, sur la réflexion, parce qu'on n'a pas été en capacité de travailler trop sur les aspects techniques avec une loi qui, par ailleurs, a touché beaucoup d'aspects des rapports locatifs, du logement, de gestion de la copropriété, etc. Donc on est sur une loi avec beaucoup, beaucoup de sujets. Et les rapports de force n'ont pas été, à notre sens, suffisants. Il n'y a pas eu assez de mobilisation dans notre pays pour vraiment peser et obtenir, arracher une baisse, enfin, en tout cas, la mise en œuvre d'une politique d'encadrement à la baisse des loyers qui pèsent un peu moins sur les revenus des locataires. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que vous allez avoir les bailleurs là qui vont arriver avec leurs arguments. Bon. Et donc, un des arguments les plus fréquents, c'est un petit peu ce que recouvre là, ce que tu disais, c'est que c'est de dire, mais si vous encadrez les loyers, vous allez décourager l'investissement locatif. C'est-à-dire ceux qui ont de l'argent et qui construisent des logements neufs pour les louer. Il y a trois secteurs dans le logement. Il y a l'accession à la propriété, dont on voit aussi les limites en Espagne. Il y a le locatif social, donc les logements encadrés avec des niveaux de loyers accessibles aux classes populaires en théorie, ou une partie de la population. Et puis le locatif privé, qui est je pense ici, en tout cas nous aussi dans nos grandes villes, notamment à Paris, sont dominants, sont pas forcément, nous à Paris c'est pas majoritaire, mais c'est dominant, c'est le secteur le plus important. Et donc eux disent l'investissement, vous allez décourager l'investissement locatif, nous on dit oui, mais si les prix sont trop chers, de toute façon c'est la situation qu'on a en France, les prix sont trop chers, donc plus personne n'achète parce les gens ont plus les moyens d'acheter, plus personne n'investit en se disant de toute façon les prix vont baisser, ils sont trop chers, etc. etc. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que si les investisseurs privés vont plus vers le secteur locatif, c'est pas grave, on fait du locatif social. On développe massivement le locatif social. Bon. Et les exigences qui sont posées aujourd'hui en termes de rendement par les investisseurs privés ne sont pas en adéquation avec le revenu des gens, des locataires. Donc c'est vraiment l'argument qu'ils vont vous opposer de manière constante. Ouais. Je pense que vous avez intérêt à vous muscler autour de ça.
Il y a une autre solution, évidemment, c'est d'augmenter le revenu des gens. Mais ça, c'est encore un autre débat. Ça, dans le mouvement syndical, on connaît.
Non, mais tu as raison.
Oui, Jean-Baptiste, oui. Si tu veux avoir ton train à 13h15 à la gare du Midi,
j'y vais.
Il est l'heure.
Bon, j'y vais. Je vous remercie d'avoir écouté la triste situation du logement en France. Mais bon, la lutte continue. On n'est pas fatigué, comme on dit souvent. Et on obtient quand même des relogements avec les combattants, ceux qui luttent pour leur droit au logement, obtiennent quand même gain de cause. Voilà. Donc on est dans une situation où il faut évidemment encourager les mobilisations. Peut-être la hausse des salaires, c'est d'accord, ça, les syndicats sont là pour nous le rappeler, et la hausse du pouvoir d'achat des salariés, notamment par la baisse des loyers et des coûts du logement.
Merci. Voilà. Allez-y, monsieur.
Bonjour, monsieur. En fait, j'ai entendu, on parle des coûts du loyer. Mais je pense qu'avant le coût des loyers, surtout pour les gens qui se trouvent en CPS, en charge de CPS, ou surtout les personnes d'origine étrangère, ils ne trouvent pas un logement pour vivre. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème d'abord? Merci à vous.
Oui.
Mais.
Nicolas, oui, vas-y. Oui, vas-y.
Mais. Tu sais, ici, le débat portait autour de l'encadrement, mais en fait, une des choses qu'on demande aussi, en fait, c'est avoir un système d'allocation loyer. Oui, c'est-à-dire qu'il faut en fait que les gens à bas revenus, et c'est avoir qui on peut prendre comme personne à bas revenus, vont recevoir une aide pour louer un logement sur le marché privé. Et là, on demande une allocation loyer qui tourne aux alentours de 200 euros par mois, plus ou moins, en moyenne. Et ça, selon nous, doit quand même pouvoir aider les personnes à trouver un logement sur le marché privé, parce que dans le logement social, il n'y en a pas assez, 40 000 ménages sur liste d'attente, ça veut dire que pour justement pouvoir aider l'agent à trouver sur le marché privé, il faut une allocation loyer. Mais pour éviter que cette allocation va faire monter le loyer de nouveau, ben, il faut aussi un encadrement des loyers. Quelque part, on tourne un peu en rond. Il faut, à notre avis, vraiment cet encadrement des loyers. C'est de ça qu'on discute aujourd'hui. Et alors, ça va quand même dégager la possibilité pour instaurer une grande allocation loyer générale. Ça, c'est l'idée qu'on a.
Un petit complément, Nicolas, à propos du CPS. Il y avait une pratique en cours qui, à mon sens, était scandaleuse et qui permettait au CPS de refuser dans ces logements des candidats qui ne gagnent pas assez par rapport au loyer. Ils disaient, si vous ne gagnez pas 2,5 fois le montant du loyer, vous ne pouvez même pas vous inscrire. Et ça, c'est une pratique, et je suis content de le dire, qui a été abrogée depuis un an. Donc maintenant, le CPS n'a plus le droit d'évincer des candidats locataires au motif qu'ils ne gagneraient pas assez.
Oui, on peut peut-être rendre la parole alors à monsieur qui avait commencé son Bonjour. Intervention pirate, mais bienvenue.
Bonjour, excusez-moi, d'abord m'adresser à bon de
pouvoir vous donner la parole. Dans le micro, oui. Oui.
Mais bon, je dis, bon, franchement, personne ne sait comment nous habitons. J'ai d'accord, je sais bien qu'ici, je crois que la plupart des gens, on est d'accord, il a la remontation des loyers à chaque année, on est d'accord, mais quand même, on pourrait bien voir une bonne rénovation et un contrôle pour tous les appartements qu'on habite. C'est pas mon cas, mais j'ai des amis qui habitent, excuse-moi, à la cave. Ouais, c'est déplorable. Ouais, c'est déplorable. En plus, il paye 800 euros de loyer. Ouais. Vous croyez que ça c'est justice? Ça c'est juste. Mais ça va pas, ça.
Évidemment.
On habite ici comme des... excuse-moi. Comme des rats. Vous comprenez? Vous croyez que ça c'est bon? C'est bien ça?
C'est tout à fait.
Ouais. La plupart des gens, oui. Vous êtes propriétaire. Mais vous êtes bien content parce que... Hein, la poste, à la banque, tout ça. Mais non! On faut voir la réalité. Excuse-moi, franchement, je ne sais pas, avec tout le respect que vous se méritez. Moi, franchement, je ne suis pas content avec ça. Pas content. Je m'excuse.
Non, c'est pas
grave. Non, vous avez raison sur la situation, Werner. Tu veux dire un mot?
Mais on connaît la situation. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est maintenant ici, hein, une demi-heure sur un podium. Hein. En fait, de l'autre côté, hein, et on est quand même ici avec une plateforme, il y a plein d'associations qui travaillent dans les quartiers, oui, avec les gens, qui vont visiter les logements, qui aident les locataires à porter plainte contre le bailleur, le propriétaire, etc. Et on sait, vous avez raison, il y a des milliers de Bruxellois qui doivent vivre dans des caves, même hein, des caves insalubres, même si c'est interdit, etc. On connaît la situation. Il suffit d'aller discuter un peu avec des associations ici autour du train. Et c'est pourquoi, de nouveau, on insiste aujourd'hui pour le futur gouvernement d'aller vers cet encadrement des loyers qui va quand même, on l'espère, empêcher que des choses pareilles arrivent, que des caves soient louées, vous avez raison, à 800 euros parce que les personnes n'ont pas d'alternative. Il n'y a pas assez de logements décents et abordables ici à Bruxelles. Et ça, on sait à travers les associations. Et c'est à travers cette action ici, maintenant, aujourd'hui, et les actions qu'on a déjà menées pendant 20 ans, qu'on essaye de résoudre et de porter des solutions. Mais vous avez tout à fait raison.
Nicolas, peut-être, parce que le gouvernement précédent a travaillé aussi sur le logement décent. Oui. Et le code du logement a été rénové.
Exactement. Mais un petit complément. Si, parce que la question, la crainte quand on porte plainte, c'est évidemment alors qu'on se retrouve à la rue, ce qui est encore pire qu'avoir un logement insalubre. Mais depuis plusieurs années maintenant, le locataire qui est expulsé à la suite d'une plainte pour insalubrité bénéficie d'une aide en espèces, bénéficie d'une allocation loyer pendant 3 ans pour l'aider à payer le loyer du nouveau logement. Donc, je ne dis pas que ça supprime toute crainte quant à l'introduction d'une plainte pour insalubrité, mais en tout cas, ça permet d'assurer la transition entre l'ancien logement insalubre et le nouveau logement salubre.
Oui.
Bonjour. Ici, Fort de Logement, c'est un handicap pour tout le monde de logement. C'est un handicap pour la santé médicale, pour dormir à l'hôtel. Dormir à la gare du midi pour le dossier médical, pour l'opération, pour malade, pour c'est la loi belge, pour la carte belge, pour syndicat locataire, pour demande de logement après. Si madame malade pour l'opération de la vessie, le tuyau, c'est dormir à l'arrêt. Si tout le monde a logement, attends, monsieur. Si pas, madame, il n'y a pas dormi. Dormir à l'hôtel, dormir à la gare du midi, si dormir à Botanique, dormir à Jardin, si c'est la loi belge, pour l'occasion handicap, c'est un dossier médical complet. Madame demande logement, rez-de-chaussée à Bruxelles, pour les malades, handicap. Si pour tout criminel raciste, demande un logement, après, c'est le crasé handicap, c'est la loi belge. Si il est malade, pour urgence. Le syndicat locataire, pour demander un logement, une médicale urgence. Normalement, urgence, une médicale pour la santé, pour mal, pour une médicale, pour la santé médicale, urgence. Pour le crasé handicap, c'est pour la loi belge, pour handicapé, pour la santé médicale, pour au niveau de l'AVC, au niveau de l'opération, au niveau il n'y a pas dormi, il n'y a pas normalement la santé. C'est pas la loi belge, le crasé handicap de logement social.
Ok. Je ne sais pas si...
Non, on a compris.
Non, ça va.
On a compris.
Werner, tu veux réagir ou quelque chose à dire?
Comment je peux réagir à ça? Moi, je ne suis pas ici en train de défendre une politique du logement. Hein. Moi, j'essaye que les choses vont mieux. Hein. Et vous avez tout à fait raison. Si on cherche un logement pas trop cher hein, et pour vous un rez-de-chaussée, ben oui, c'est devenu presque impossible avec un petit revenu. Je suis d'accord, tout à fait d'accord.
Là où on en est aujourd'hui, il n'y a pas de réponse adéquate aux situations d'urgence sociale et médicale dans la situation actuelle à Bruxelles. C'est clair. Hein, aujourd'hui, la politique du logement telle qu'elle est conçue ne permet pas de répondre à ces situations. Et c'est vrai que c'est un véritable scandale et qu'on peut entendre que ça pose de très gros problèmes à des familles. Et donc, la question des logements de transit, la question des logements d'urgence est aussi une question qui doit être dans les premières priorités. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on n'y est pas. Et ça se retrouve aussi dans nos revendications. Enfin, aujourd'hui, on essaye d'aborder le problème par la question de l'encadrement des loyers. Donc, essayons peut-être d'en rester à cela. Et il va falloir que nous allions doucement vers la fin de ce débat parce que notre deuxième orateur, Nicolas, va aussi devoir nous quitter. Donc, encore une ou deux questions, mais pas plus, s'il vous plaît. On va prendre encore une question.
Donc, par rapport à l'encadrement des loyers, c'est une question qui me préoccupe depuis de nombreuses années. Et je suis bien content d'avoir trouvé l'e-folder dans lequel on explique qu'est-ce que ce serait une grille de loyer. Mais je suis un peu presque stupéfait parce que je trouve que vous avez mis des chiffres qui sont très importants. J'ai fait mes comptes et on devrait augmenter mon loyer si on mettait le projet que vous avez mis en musique. Si on m'obligeait à ça, on augmenterait mon loyer. Donc ça veut dire que, je ne sais pas moi, mais vos chiffres sont généreux.
Nicolas ?
Mais alors vous soulevez une question tout à fait importante et qui explique pourquoi cette grille n'a pas fait l'objet d'une publicité? Parce que comme il s'agit de valeurs moyennes, y a des loyers au-dessus et des loyers en dessous. Et le gouvernement n'a pas voulu donner une publicité exagérée, pour dire le moins, à cette grille, parce que elle risquait de donner des idées à ceux qui demandent un loyer actuellement qui est en dessous de la grille. Et on constate que souvent, ce sont des personnes âgées qui bénéficient d'un loyer qui est en dessous de la grille parce que ça fait longtemps qu'elles sont dans leur logement, le loyer est juste indexé, et donc on a eu peur que cette grille, certes, elle pouvait diminuer les loyers supérieurs, mais elle pouvait alors augmenter les loyers qui sont au-dessus, qui risquaient d'être alignés sur la moyenne. Et c'est notamment pour ça que cette grille n'a pas été trop diffusée, et il faut avoir un réglage encore plus fin, il faut l'affiner encore, la perfectionner, cette grille. Mais de toute façon, on n'oblige personne à aller aux valeurs de la grille. Hein. C'est juste un plafond, un maximum.
Je peux quand même encore dire un truc. Cette grille qui circule, c'est pas du tout officiel. Oui, c'est même pas la grille que la plateforme veut avoir comme référence. Hein. Et je pense qu'il faut pas non plus rêver. Hein. Si un jour on va avoir un encadrement des loyers et une grille avec des loyers de référence, ça va être après des longues discussions et négociations avec le syndicat des propriétaires. Oui. Je pense qu'ici, hein, c'est une grille qui a été établie sur base d'une étude et dont le comité d'accompagnement, le syndicat des propriétaires était présent. Mais je ne suis pas sûr qu'ils sont d'accord avec cette grille aussi. C'est-à-dire que si jamais on veut avoir vers un système qui est défendu par le monde politique, syndicat et locataire, à mon avis, il faut encore un petit temps de négociation. Et de nouveau, ce n'est pas cette grille qui va, pour nous, sortir finalement comme solution finale.
Voilà, je pense que vu l'heure, on va devoir clôturer ici ce débat. Je remercie tous nos participants de ce côté-ci de la table, mais aussi à vous de nous avoir non seulement écoutés, mais d'être intervenus dans ce débat. Le combat continue pour le droit au logement. Hein. Je pense qu'on est dans une étape. On est face à la constitution d'un nouveau gouvernement. La plateforme est constituée. Nous comptons aussi sur votre soutien pour que la situation demain permette à toutes les Bruxelloises et tous les Bruxellois de se loger décemment à un prix compatible avec leur revenu. Je vous remercie.